tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutu.
Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai?
Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
You're gonna need a bigger podcast.
Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos périples voraces dans le monde chamarré de la Sharkspotation. J'aime bien chamarré. Ah oui, je sais, je suis en retard. Vous seriez sympa, vous ne me le feriez pas remarquer. Ah oui, j'ai eu énormément de boulot ces derniers temps, pas mal de travaux à la maison, et puis je dois bien avouer que la technique me fait pas mal défaut puisque c'est la cinquième fois que je réenregistre ce podcast. J'espère que cette fois-ci, ça va être la bonne. Bon, je vous rappelle quand même un petit peu le principe de l'émission si vous découvrez Shark Parade par ce numéro. Nous avons sélectionné deux films de requins que nous allons mettre sur le grill pour en tirer les capacités cinématographiques et squalesques, c'est-à-dire squalographiques. Qui sont l'originalité, l'histoire, les personnages, l'ambiance, la réalisation, la qualité des requins, leur attribuer pour chaque catégorie de 0 à 3 points selon qu'ils sont non acquis à acquis, rajouter 2 points d'appréciation personnelle en toute subjectivité, et aboutir à un total sur 20. Ce total sur 20 va ensuite nous permettre de reclasser les films dans une des 5 catégories suivantes. De 0 à 4, c'est à fuir. De 4 à 8, c'est nul. De 8 à 12, c'est routinier. De 12 à 16, c'est bon. Et au-dessus de 16, et on n'en a pas beaucoup, ce sont des incontournables. Alors, sans perdre plus de temps, quels sont les deux films que nous allons traiter aujourd'hui? Eh ben, deux petits films qui ont comme point commun d'avoir des méchantes scientifiques allemandes qui préparent des requins un peu bizarres. Nous allons commencer par un téléfilm de 2003, La chasse aux requins tueurs, High Alarm auf Mallorca, un téléfilm allemand de Yorgo Papavesiliou. Puis nous nous risquerons sur Sharktopus vs Wellwolf, un film de 2015 de Kevin O'Neill, de l'écurie Corman, produite pour la chaîne Sci-Fi, troisième épisode de la saga du Sharktopus. Alors, prêt à jeter à l'eau?
High Alarm auf Mallorca. Mallorca im Hochsommer. Doch die Idylle trügt. Ein 20 Meter langer Urhai treibt sein mörderisches Unwesen. Hollywood-Star Ralph Möller alias Sven Hansen will Mallorcas Urlauber vor dem Monster retten. Der Kampf Held gegen Bestie beginnt. Seit tausenden von Jahren wurde kein derartiges Ungeheuer gesehen. Doch der Profi will den Killerhai endgültig auslöschen. Schon rast der T-Rex der Ozeane auf seine nächsten Opfer zu. In letzter Sekunde kann Hansen sie retten. Und die Bestie besiegen. Für immer.
Bon, les Allemands, alors comment dire, je dois vous avouer, j'ai rien contre vous, hein. Je roule un Opel, cet été on part avec les gosses à Europa Park, et dans ma famille on adorait vous envoyer du courrier pendant l'occupation. Parce que, côté film de requin, je vais quand même être un peu honnête, c'est pas vraiment votre grand domaine de compétence, hein. Vous feriez mieux de vous en tenir à ce que vous savez vraiment bien faire, hein. Comme les séries avec des poursuites en BM sur autoroute, les grands yaourts aux fraises pour Hard Discounter... Cette espèce de recherche de l'accord parfait entre le short, les chaussettes et les sandales. Enfin bref, votre simili-dent de la mer en Espagne, là, High Alarm auf Mallorca, ça vaut pas tripette. Et bon, vous en êtes pas encore à concurrencer les Canadiens et les Japonais dans le style rip-off moisi, mais pour un téléfilm de W9 en soir d'été, c'est quand même un petit peu léger. Alors nous sommes donc au Baléares, hein, vous savez l'archipel que les Allemands ont racheté en leasing aux Espagnols, hein, lors de la crise économique. Et notre héros, Sven, un pilote d'hélicoptère, est dévasté par la mort de sa femme en mer il y a quelques années, probablement attaqué par un requin. C'est pourquoi, malgré son physique de déménageur, il mène un peu la vie dure à sa fille adolescente qui adore aller faire du jet ski avec ses copains à la mer. C'est vrai quoi, qu'est-ce que c'est que cette idée de vouloir faire des activités sportives nautiques au Baléares, alors qu'on pourrait faire ce que font tous les jeunes là-bas, c'est-à-dire écouter de la techno pourrie et se défoncer avec de l'ecstasy. Mais bon, c'est ça la jeunesse, hein, ils en font toujours qu'à leur tête et ils n'écoutent jamais ce que leur disent leurs parents qui ont déjà vécu. Quand de nouvelles disparitions commencent à se multiplier dans la région, Sven commence à s'inquiéter et découvre dans l'épave d'un bateau une dent de requin gigantesque. Il essaie de prévenir les autorités de la menace qui rôde, mais curieusement, celle-ci, représentée par son pote Carlos, un policier local, ainsi que par un institut océanographique qui travaille sur les requins, minimise pour ne pas ruiner la saison touristique. C'est marrant, ça me dit quelque chose. D'autant qu'au fur et à mesure qu'il tente de se mêler de cette histoire, à l'aide d'une charmante océanographe fraîchement débarquée d'Allemagne, des gens tentent de le faire taire de façon un peu définitive, comme si la présence de ce mégalodon n'avait rien de naturel. Ça pisse sec, hein, et ça le fait avec une roublardise de routier de téléfilm, hein, qui coche tout le cahier des charges de ce genre de production et qui n'a peur de rien. Un petit peu de Jaws, une louche de peur bleue avec ses recherches scientifiques qui génèrent un requin monstrueux pour combattre le cancer, et même un gros clin d'œil à Terminator, un moment où l'héroïne veut aller chercher Sven dans la prison où il a été enfermé, se fait rabrouer par les flics locaux, lance un petit « je reviendrai », puis défonce le commissariat avec une Smart. Oui, avec une Smart, on a les moyens qu'on peut. Voilà, alors la chasse au requin tueur, c'est un bon gros téléfilm. Hein. Rallongé, pour pas dire dilué, pour arriver quasiment à 2 heures, et permettre très certainement une diffusion en 2 fois en tant qu'onde des coupures publicitaires sur RTL, son diffuseur allemand. Et ça se ressent bien dans le rythme, et avec notamment une première heure qui est soporifique. On voit quasiment pas le requin, et on assiste surtout au marivaudage des personnages, avant, dans la deuxième partie, d'enclencher un peu le turbo, et de recapter l'attention et l'intérêt du public en développant une histoire de complot, de trahison et d'excellence scientifique bizarre, le tout étant quand même assez perché, et surtout assez téléphoné. Et où surtout, enfin, le requin commence à rentrer en scène. Oui, parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut bien avouer, c'est que la forme vient un peu torpiller l'ensemble. Déjà esthétiquement, c'est formaté téléfilm européen modèle saga de l'été, avec des personnages qui sont calibrés pour plaire à la ménagère de moins de 50 ans, avec une forme aussi lisse que possible, que ce soit dans les éclairages, que ce soit dans l'esthétique. Yorgos Papavassiliou filme utilitaire en se permettant simplement une petite louche d'effets assez matu-vu, comme des plans hélicoptères, hein, de nos jours ce serait des plans drones pour magnifier les paysages des Baléares, ou bien des gros plans un petit peu choc avec des petits ralentis, des petits accélérés. Bref, tout l'arsenal des effets qui étaient déjà clinquants et foireux en plein milieu des années 2000. Le casting allemand semble assez content d'être là, probablement pour passer des vacances auprès de la production. Mais bon, si le casting n'est pas antipathique, on a un petit peu du mal à y croire. La plupart, donc comme je l'ai dit, ce sont des acteurs de téléfilm allemands. Et notre héros Sven, c'est Ralph Möller. Un papa poule bodybuildé qu'on a un petit peu du mal à prendre pour un simple pilote d'hélicoptère lambda, parce qu'il a promené son physique à la Schwarzenegger dans un paquet de séries ou de films américains. Il a été vu dans Gladiator, dans Spartacus, il a même interprété Conan pour Sam Raimi dans la série éponyme. Or, le gars est plutôt sympa, hein, pour les scènes d'action ça va, mais quand il faut jouer les papa poules blessés, comme je le disais, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, plus j'y repense, et plus ce film semble prendre l'eau de tous les côtés, plus il y a de trucs qui vont pas. Prenez le générique par exemple, ça commence avec une voix off qui vous parle de l'histoire de deux amoureux qui sont morts tragiquement en mer pour pouvoir se retrouver malgré l'interdiction paternelle, et qui peut-être se sont transformés en fantômes, ou en requins fantômes. Thank you. Enfin, c'est pas clair. Et puis en plus, ça sert à rien dans le film. À part un vague plan référence tout à la fin, bah, ça n'est plus jamais évoqué. Voilà, le résultat, c'est que c'est pas antipathique, mais c'est complètement bricolé. On a vraiment l'impression que le scénar a été retouché au fur et à mesure du tournage, et qu'on a oublié des pages au passage pour arriver au total final. Et en plus, il y a cette espèce d'absence de recul qu'avaient les Allemands quand ils tournaient leur série dans les années 2000. C'est-à-dire qu'ils tournaient encore avec une espèce de premier degré, comme les Américains pouvaient le faire, mais dans les années 70-80, avec des méchants très méchants, des gentils très gentils, et du noir et blanc en termes de profondeur des personnages. D'autant qu'on sent que le budget, il a quand même pas dû être bien énorme, hein, ce qui explique que le requin notamment, on le voit pas beaucoup, hein, je vous reparlerai un petit peu après de la technique pour le requin, mais franchement, c'est quand même très très cheap et très très rallongé. Et puis, même les poursuites en voiture, hein, la grande spécialité des séries allemandes, eh bien on a l'impression qu'ils ont fait bien attention de pas esquinter les bagnoles pendant les tournages. On a des poursuites, on a des scènes qui se veulent un petit peu rythmées, mais en fait, à part défoncer deux cajots, dès qu'on va avoir des véhicules qui se percutent, on évite de se montrer la moindre tôle froissée. Vous comprenez, ça coûte cher les voitures. De la même façon, la musique est complètement impersonnelle, elle est signée Reskera, un compositeur de séries allemandes, hein, qui est notamment célèbre pour avoir composé pour la série Le Clown, t'es sympa celle-là, et Alerte Cobra aussi. Une petite pensée au passage pour Julien de l'équipe de Nanarland, dont les films de poursuite en BM sur autoroute allemande est un petit peu le king secret. On a donc une partoche très calibrée de téléfilms, hein, et franchement, on a des nappes de synthé pendant les moments de stress, des petites musiques rigolotes quand il y a des poursuites avec la police. Or comme la musique est assez peu récupérable et puis qu'en plus elle n'a été éditée nulle part, j'ai rajouté pour sonoriser derrière quelques extraits d'Alerte Cobra pour étoffer un petit peu la bande-son en arrière-plan. Qu'est-ce qu'era, qu'era... Seul morceau qui ressort un peu, une chanson de la pop star allemande Janet Biberman, 69, interprétée pendant une compétition de jet-ski. 69, oui, c'est bien sur la position, vous aviez bien compris. Je vais pas épiloguer indéfiniment sur ce film, il est pas terrible. Il est beaucoup trop long pour ce qu'il a à dire, on peut même se contenter des 20 dernières minutes où ça bouge enfin et où le requin apparaît un petit peu, même si on le voit jamais vraiment. Pour le reste, on a affaire à un téléfilm bien calibré pour passer sur M6, sur W9, sur Sister. C'est d'ailleurs les chaînes sur lesquelles il a été diffusé chez nous, ce qui montre que malgré tout ça se vend. Ça se vend même tellement bien qu'il semble qu'il soit sorti aux États-Unis, alors je sais pas trop sous quelle forme, peut-être de DVD. Et ouais, c'est ça la force des Allemands, même leurs produits nazes, ils arrivent à les exporter. Deutsche Qualität. Bon, les qualités squalographiques de High Alarm auf Mallorca. Eh bien, l'originalité, c'est non acquis. Rien de bien neuf sous le soleil des Baléares. On recycle des choses déjà vues mille fois, et on se retrouve avec un produit qui n'aurait pas dépareillé dans le catalogue New Image de l'époque. Ce qui fait que l'histoire, elle aussi, est insuffisamment acquise. Toute la première partie se traîne, ce qui fait qu'on a toute la première partie où on va vous présenter des personnages clichés, pour une résolution en accéléré dans la dernière demi-heure. Les personnages eux aussi sont insuffisamment acquis, parce que, bon, Ralph Müller est bien sympathique avec sa bonne bouille de bodybuilder, mais on a quand même des acteurs qui sont en mode saga de l'été, on va faire le minimum syndical pour pouvoir plaire au plus grand nombre. L'ambiance, elle aussi, est insuffisamment acquise, ça se traîne vraiment pendant toute la première partie, et puis même les poursuites en bagnole sont molles. Ce qui est quand même un comble pour un film allemand, parce que c'est un peu leur spécialité.
La réalisation, allez, je vais être méchant, mais non acquise. Papa Vassiliou filme le plus platement possible. C'est bien simple, j'ai été voir un peu sur son site internet pour essayer d'en savoir plus sur lui. Même son site internet marche pas. Qualité des requins... insuffisamment acquis. Le requin, on le voit très très peu. Et comme c'est un mégalodon, on a utilisé une tactique un petit peu particulière qui consiste en fait à prendre des vraies images de documentaires animaliers et de les grossir à l'image, pour faire croire finalement à un requin géant. Mais c'est tellement mal intégré que finalement, on n'apprécie pas véritablement notre squale. Il y a une séquence dans le laboratoire océanographique où on a un beau requin, où on les voit au travers d'un aquarium et où ils présentent bien. Mais bon, ça fait un petit peu léger sur un film de 2 heures qui est censé s'appeler La chasse au requin tueur. Cela nous donne donc un total de 4, j'ajouterai un petit demi-point pour la dernière demi-heure un petit peu plus musclée. Voilà, 4,5 c'est nul. C'est nul parce qu'on est dans un produit excessivement formaté, qui a en plus une patine téléfilm européen qui lui rend pas justice. Alors oui, c'est un petit peu décevant, on pourrait espérer quand même avoir un petit peu mieux, mais au moins les Allemands ils essayent, les Allemands ils tentent le coup. Parce que les Dents de la Mer français, on les attend toujours. Bon, retournons vers les États-Unis avec une petite production Corman. Sharktopus versus Werewolf, on retourne à du classique.
There's something in that bay, Nita!
Tell me about that creature you saw.
It was a shark. The big one with tentacles, maybe.
Did it look like this?
Yes. What is it?
Le Sharktopus? Dude, seriously, you don't have internet? The damn thing has a Twitter account.
He already followed me back.
You will bring me the creature's heart. Off you go.
I can take your places, Mr. Rosa. But you have never been.
Will it hurt?
I hope so.
I'm going to need a bigger needle.
What the hell is that?
The hell is that?
Sharktopus and Werewolf are destroying the city.
Did you just say Werewolf?
You got a better name?
I'm really sorry. It's just that he wanted to taste a brunette.
It's no joke. Call the Navy, the President, maybe the Pope.
I'm against cruelty to animals.
Bon, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Peut dire ce qu'on veut en la matière, Roger Corman, c'est le bon commerçant. Il n'hésitera jamais à en rajouter quand le filon s'avère juteux. Puisqu'après le succès surprise du premier Sharktopus en 2010, il avait mis pas moins de 4 ans avant de nous faire la suite Sharktopus versus Terracuda. Donc il allait pas faire 2 fois la même erreur, et dans la foulée, l'année suivante, 2015, Sharktopus versus Werewolf, qui semble-t-il hélas n'a pas rempli les objectifs financiers prévus, hein, ça marche pas à tous les coups. Puisqu'à la fin du film, alors qu'on annonce clairement un 4e opus à venir, eh bien, celui-ci n'est jamais venu. Et comme notre Sharktopus versus Werewolf sent un peu le backlash et le je m'en foutisme goguenard, ça ne m'étonne qu'à moitié. Les gens se sont lassés tant ce Werewolf pousse les potards de la facilité du clin d'œil à tout prix, au-delà de ce que le spectateur le plus indulgent peut supporter. Ok, c'est un film facile, mais il reste du métier, la volonté de pas trop se prendre en sérieux, de garder un peu de rythme. Seulement, ce petit jeu-là, Roger, tu t'es fait manger la laine sur le dos par les petits malins de The Asylum. On va pas se le cacher, en 2015, c'est eux qui trussent le marché avec leur Sharknado à répétition. Et puis maintenant, à 94 ans, même avec l'appui de sa fille Julie, bah, c'est quand même un petit peu plus difficile de produire des films. Or, je vous rassure tout de suite, hein, il nous a quand même pondu depuis 2015 un Cobra Gator, donc en 2017, un Abduction avec Scott Adkins qui affronte des méchants aliens, en coproduction avec le Vietnam en 2019, hein, on se refait pas. D'ailleurs, en matière de tournage exotique, c'est la grande force de Corman, ça, toujours savoir coproduire avec des pays où la main-d'œuvre est moins chère, où on peut trouver des techniciens, des jolis décors, et une défiscalisation plutôt favorable, hein, la division internationale du processus productif, ça s'appelle, c'est au programme de terminal. Et donc là, ce coup-ci, ben, ça va être en République Dominicaine que la production s'est installée, hein, comme d'ailleurs pour le précédent, Sharktopus vs Terracuda, ils ont dû probablement être tournés back-to-back, pour faire réapparaître donc notre requin-pieuvre affamé. Oui, alors on va pas trop s'embarrasser avec des explications compliquées de la subtilité. Sharktopus is back, et dès les 5 premières minutes du film, il apparaît au milieu de funérailles en mer, au large de Saint-Domingue, pour s'emparer du cercueil de la veuve éplorée, et faire son petit effet sous les yeux du capitaine Brady, interprété par cette vieille fripouille de Caspar Van Dien, qui doit convaincre un monde incrédule, et surtout sa copine inspectrice de police à Saint-Domingue, que la réalité de la menace est bien là. Mais comme le capitaine Brody a un peu trop l'habitude de téter de la bouteille, son témoignage est modérément pris au sérieux par les autorités locales. Mais il suscite l'intérêt d'un inquiétant prêtre vaudou, qui se dit qu'avec le cœur de la créature, eh bien il pourrait réussir à faire un rituel lui accordant l'immortalité.
My dear Captain Ray, with Sharktopus being, comment se dit?
With the aid of this voodoo doll.
My bitch, I will be the government. Besides,
I already heard of this new demon.
And I will control him too.
Like Sharktopus with this doll.
Well, if you're not gonna help, then
you leave me no choice. I will use my drunken judo kung fu to...
And then you're commanded. How did you say, and you'll be my bitch!
You think I'm an idiot? I probably just have a drink.
I am the great Chief Francois, descendant of the last Tongue King. Don't you think I would know these parlor tricks?
Absolutely.
Dans un autre coin de la ville, le docteur Reinhardt, une excentrique scientifique allemande, mène d'étranges recherches sur le rajeunissement des cellules et soigne des actrices sur le déclin ou des sportifs soucieux d'optimiser leurs performances en leur injectant de l'ADN animal. Et c'est ainsi qu'elle crée le Werewolf, moitié orc et polar, moitié joueur de baseball et remoitié loup derrière. Bon, l'utilité de l'expérience reste à démontrer, mais comme elle le dit elle-même, elle a étudié avec les meilleurs, hein, c'est-à-dire les deux savants fous des précédents films, qu'on revoit en portrait. Et donc, comme de juste, la bestiole s'échappe assez rapidement et se retrouve nez à nez, ou truffe à branchies, avec le Sharktopus pour un affrontement qui va ravager les environs. Bon, on le voit, hein, Corman et son équipe habituelle, à commencer par le réalisateur Kevin O'Neill, se sont pas foulés pour nous sortir un produit calqué sur leur prédécesseur, sans rajouter grand-chose en termes de fraîcheur du produit. Si ce n'est, c'est une certaine désinvolture générale dans l'ensemble qui le rend quand même assez plaisant, et voire même carrément par moments cartoonesque, hein, dans les poursuites ou dans la façon dont le Sharktopus interagit avec ses proies. Hein. On est littéralement dans du Tom et Jerry. Comme par exemple quand nos héros essaient de lui échapper dans un centre commercial, avant de s'écrier « Mais où est-ce qu'on est? Où est la sortie ?» et le Sharktopus d'émerger de derrière un grand panneau avec le plan du supermarché, et de tapoter négligemment de la tentacule pour montrer la sortie qu'il est en train de bloquer. Et ce n'est pas le Werewolf qui va sauver l'ensemble, vu qu'en gros il est présenté littéralement comme un gros chien-chien teubé. Il a des grands yeux de cocker triste, la langue pendante, et si vous voulez vous en débarrasser, ben vous lui envoyez une babale à chercher. Son look est d'ailleurs un petit peu décevant à mon sens, hein. Contrairement à ses prédécesseurs, le Sharktopus ou le Terracuda qui exploitaient à fond leur aspect hybride, eh ben le Werewolf c'est quand même un gros clepsidio, hein, avec des nageoires. Qui va d'ailleurs très peu dans l'eau, hein. C'est un petit peu dommage. La plupart des fights vont avoir lieu sur la terre ferme, ce qui nous permet d'admirer les effets spéciaux d'une assez grande laideur pour un produit de 2015, hein, réalisé par un spécialiste en effets spéciaux, Kevin O'Neill. Kevin O'Neill qui avait créé dans les années 90 une société, Flat Earth Production, pour fournir des effets spéciaux pour Xena et Hercule. Il a beaucoup bossé pour Corman, hein, sur des productions pour Vidéo Club, et a même assuré la réalisation sur 6 films, dont 3 films de requins, Dino Shark et les deux derniers Sharktopus. Bon, quand je dis que les effets spéciaux sont pas très réussis, je suis un petit peu cruel. Les monstres sont sympas, c'est vraiment l'intégration aux images qui est ni fait ni à faire, hein, qui sent le bâclage en post-production. avec des incrustations et des explosions par ordinateur qu'on n'accepterait même pas sur une vidéo YouTube. D'autant qu'O'Neill, qui était bien meilleur sur ses précédents films, semble avoir un petit peu délégué une partie du tournage, à mon avis. À part des grands travelling circulaires autour des personnages pour les scènes de dialogue, la réalisation est très très plate, beaucoup plus plate que ses précédents films. À croire par moments qu'il a carrément délégué ça à des stagiaires. Je serais d'ailleurs pas très très étonné, parce qu'en fait, le film semble avoir été tourné très très vite, avec pas mal de plans qui ont dû être filmés à l'arrache, sans autorisation, dans les rues de Saint-Domingue. Témoin le fait que sur certains combats de monstres, on voit carrément des badauds qui sont arrêtés en train de regarder, ou bien qui continuent tranquillement leur vie sans sourciller à l'arrière-plan. Ça reste un spectacle encore assez honnête, avec pas mal de rythme, pas mal d'action, des acteurs qui ont l'air de quand même pas mal s'amuser, Caspar Von Dien en capitaine de bateau alcoolique en fait des caisses, et puis celle qui s'amuse le plus, c'est Catherine Oxenberg qui joue le docteur Reinhardt avec un accent allemand invraisemblable, et qui, en savant folle, a l'air vraiment de prendre son pied.
The body is a temple, Mr. Orsa, but all too often it is a cage. The mind is willing, but the human form is so limited. Even the strongest man is a weakling compared with a wolf. So primal. It has reaction time so fast, they border on ESP. And for metabolic purposes, the blood of a killer whale holds 5 times the oxygen of a primate.
So you're putting fish blood in
me? Whales are mammals, and it's not blood, Mr. Rosa. Strands of DNA. We alter your genetic structure. Not the kind of thing they can catch with a pee-pee test. Of course, this is not the sort of thing that the medical community can easily understand.
What kind of doctor are you?
Do not worry, Mr. Rosa. I studied with the best.
Will it hurt?
Oh, yes, Mr. Rosa. I hope so.
Pour le reste, même si tout a l'air plutôt rusher, c'est quand même fait avec un certain professionnalisme dans la série B, la patte de Roger Corman, soyons honnêtes. Alors, curieusement, ce film, il n'a pas eu l'air d'avoir beaucoup de succès quand il est sorti en 2015, puisque malgré une fin ouverte qui semble présumer d'un Sharktopus suivant, la série s'est arrêtée là, et le film n'a même pas eu le droit à une version française. Ni même d'ailleurs de sortie DVD. On n'est qu'en VOD pour pouvoir le trouver, c'est un petit peu compliqué. Alors que les deux précédents avaient eu droit à une sortie DVD chez nous. Voilà, on sent le film qui a été tourné vite, tout à l'efficacité, l'image du score de Ryan Beveridge et de Charles Bernstein, qui a un lien de parenté, semble-t-il, avec Elmer Bernstein ou Leonard Bernstein. Deux compositeurs, deux studios qui ont beaucoup bossé pour la télé et qui livrent un produit très standardisé, qui va bien avec le film. Petite musique caribéenne quand il faut, petite musique d'angoisse qu'on a déjà mille fois entendue quand il faut, les musiques de poursuite quand il faut. Voilà, c'est professionnel, c'est sans passion. Pour l'anecdote aussi, le film au départ ne devait pas voir le Sharktopus affronter notre Werewolf, mais plutôt une créature nommée Merman Tula, qui devait être une espèce de mélange entre un piranha et une tarentule. Le scénario d'origine semblant être sensiblement le même, ils ont juste changé la créature. Le film a porté ce titre de travail, Sharktopus versus Merman Tula, pendant un petit bout de temps avant que, je ne sais pas trop pourquoi, il change de créature. Bon, quelque chose me dit que le concept devrait pas trop être perdu et qu'on va se retrouver un de ces quatre avec ce genre de Merman Tula qui va rôder quelque part à affronter soit une nouvelle itération de Sharktopus, soit un Cobra Gator ou un Dino Croc, ou tout autre animal du cheptel de Roger Corman. Que voulez-vous, le film de monstre est éternel.
What happened to your massive plastic surgery?
I'm a natural beauty.
As your agent, I have to tell you, there are very few roles for women in the late, late twilight of their careers.
But I feel so much younger.
I have the legs of an 18-year-old.
Are you keeping them in the freezer?
I was thinking,
We should submit to that horror movie.
As one of the zombies.
No, the sexy college student.
I don't think I heard that right.
The island breeze has rejuvenated me.
I know you did horror when you were younger.
But movies are different now. They have sound.
There's no way on earth you can be cast as a scream queen.
Are you trying to audition? Oh, no, no.
I'm sorry, the scream is just not believable.
Bon, bah, visualisons maintenant les capacités scolo-cinématographiques de Sharktopus versus Werewolf. Alors, l'originalité, c'est non acquis, soyons clairs, on nous resserre la même sauce, les mêmes arguments, les mêmes savants fous, les mêmes affrontements de créatures. L'histoire, elle est insuffisamment acquise. Il n'y a pas grand-chose de neuf à raconter, donc les personnages discutent pas mal entre eux, palabre, et l'action avance de façon assez rythmée, parce qu'on sort beaucoup des attaques de monstres, mais... faut pas non plus attendre à quelque chose qui va être transcendant. Les acteurs sont en cours d'acquisition, tout le monde a l'air de bien s'amuser, que ce soit Caspar Van Dien, que ce soit Catherine Oxenberg avec son accent allemand à couper au couteau. Pour la petite histoire, les deux n'ont aucune scène en commun, parce qu'en fait ils étaient en pleine instance de divorce au moment du film. Un divorce qui s'est plutôt passé à l'amiable d'après les accords, après plusieurs années de vie commune. Voilà, c'était le petit carnet gala de Shark Parade. La réalisation... ben, insuffisamment acquise, alors que précédemment j'avais mis plutôt des bonnes notes à Kevin O'Neill sur ses films, là, il a franchement régressé. Je soupçonne donc fortement qu'il n'a tourné qu'une petite partie, ou simplement supervisé l'ensemble, et laissant à des équipes B, des équipes C, le soin de vraiment tourner le film. L'ambiance, elle, est en cours d'acquisition. Ça, faut reconnaître, avec les productions Corman, il y a du rythme. Ça a toujours été le point fort de cette série. On n'a pas trop le temps de s'ennuyer, on n'a pas trop le temps de penser non plus, mais au moins, c'est quand même le minimum de politesse, faire un film agréable à voir. La qualité des requins, enfin, eh bien, je vais aller jusqu'à... en cours d'acquisition. Alors certes, les incrustations sont vraiment dégueulasses, mais pour le reste, les monstres sont sympas et on les voit beaucoup, donc... allez, ça passe quand même. Ce qui nous donne au final un total de 8, auquel j'ajouterai un demi-point. On est dans le routinier, un routinier un cran en dessous du Sharktopus original et du Sharktopus versus Terracuda, mais on est aussi sur un produit qui a été fait vite pour capitaliser sur la réussite de l'ensemble. C'est pas totalement étonnant que le public ait fini par se détourner, à force de nous resservir continuellement les mêmes tambouilles. On a beau rajouter une ou deux épices, on a beau rajouter un ou deux condiments, on finit par se lasser. Même s'ils ont quand même, de l'autre côté, réussi à nous fourguer 6 Sharknado. Enfin bref, c'est pas un mauvais moment à passer, c'est pas non plus un film qui restera dans les annales, surtout qu'il n'y a pas de VF. Bon, peut-être que Roger Corman va nous sortir, dans les années 2020, un quatrième Sharktopus. Or, je dirais pas non, sans enthousiasme démesuré, mais le niveau de qualité est supérieur à ce que fait la plupart du temps The Asylum ou Active Entertainment. Donc, Roger Corman, même à ton âge canonique, je sais que tu en as encore sous la pédale et que tu peux encore nous surprendre. Bon allez, il est temps de tirer un petit peu les films que nous allons voir pour la prochaine fois. Alors je reprends ma boîte à requins et nous tirons Open Waters 3, Les Abîmes de la Terreur, sorti en 2017. Un film de Joel Racionato. Alors c'est rigolo parce que le premier Open Waters, il est quand même premier, ex aequo avec Peur Bleue, dans notre liste, c'est un des rares incontournables avec ses ennemis. Le 2, il n'y avait pas de requin. Et donc le 3, ben, il y a un retour de requin. Est-ce qu'il va être à la hauteur de son illustre prédécesseur? Eh ben, on le verra la prochaine fois. Ah, mais c'est pas mal ça. Allez, deuxième film. Furia Assassina, un film mexicain de 1990 de René Cardona Jr. Encore une production pas très très connue. Et d'ailleurs, je crois qu'elle n'existe qu'en espagnol. Bon, moi j'avais pris LV2 allemand, mais bon, débrouillé en espagnol, au moins à trouver des sous-titres. Alors, quelques recommandations avant de se quitter. Alors, dans notre série Nos auditeurs ont du talent, vous connaissiez déjà la liste Sens Critique de Quentin, qui permet de retrouver l'ensemble des films que nous avons traités. Mais un autre auditeur s'est lancé dans le même genre de recension avec Letterboxd XD. Il s'agit de Fabien qui a essayé un petit peu de remettre de l'ordre dans tout ça. C'est assez intéressant parce que ça permet aussi, au passage, de voir les offres légales pour pouvoir revoir ces différents films. Plutôt tourner quand même sur les offres légales américaines. En tout cas, je suis toujours épaté par votre courage, les gars, d'essayer de remettre dans l'ordre tout ce que je raconte. Mais moi, j'y arrive pas. Deux petites recommandations YouTube avec deux chaînes vraiment très intéressantes. In the Price of Shadow, une chaîne en anglais qui revient sur des grandes séries d'épouvante. Donc pour l'instant pas fait de film de requin, mais comme en ce moment je suis en train de me refaire pas mal de grandes sagas d'épouvante, je me suis fait les Halloween, je me suis fait les Hellraiser, les Fantasmes, je vais attaquer les Massacres à la tronçonneuse, eh bien il revient un petit peu sur tous ces films et de façon assez érudite, essaie d'expliquer comment ces sagas se sont construites. Vraiment très bien. Autre chaîne qui vaut vraiment le coup d'œil, en français cette fois-ci, c'est celle d'Alt 236, un vidéaste et artiste qui explore les mondes imaginaires, qui explore l'étrange, le bizarre, le poétique, le symbolique, avec une vision d'artiste. C'est vraiment superbe. Bon, sinon, où est-ce qu'on se retrouve? Eh bien, sur les podcasts Nanarland, on a pris un petit peu de retard, mais on en a en réserve. Sur Twitter, @TheUltimateRico, je suis un petit peu moins actif en ce moment, mais j'ai beaucoup de boulot, ce qui explique aussi les retards que prend le podcast. Comme d'habitude, je vais essayer de faire un petit peu mieux pour les prochaines, mais je peux rien vous promettre. En tout cas, on se retrouve à peu près dans 15 jours, 3 semaines. Cette fois-ci, je vais essayer de tenir un peu plus mes délais. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner.